Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Emprisonné pendant un an en Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié le 12 novembre par le président Tebboune suite à une médiation allemande. Il est arrivé à Berlin où il a été transféré vers un hôpital militaire. Cette affaire a été au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, une crise qui est peut-être en voie d'être réglée après le départ de Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, pour quelles raisons avait-il été arrêté? Que nous dit cette affaire sur la relation entre la France et l'Algérie? Pourquoi a-t-il été transféré vers l'Allemagne et non vers la France? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Henri Vernet, Boualem Sansal est un écrivain célèbre, publié par les prestigieuses éditions Gallimard, traduit dans le monde entier, un homme libre qui, bien qu'habitant en Algérie, n'a jamais ménagé le pouvoir. Il a pris aussi la plume pour dénoncer l'islamisme. Est-ce que vous pouvez nous brosser son portrait en quelques mots ?
Vous avez employé le mot dans votre introduction quand vous dites liberté. Oui, c'est exactement pour moi l'incarnation du libre penseur. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'érige un petit peu contre tous les systèmes, qui n'en épouse aucun, qui ne plie devant aucun, qui met en avant, eh bien, justement, la liberté de penser, de conscience de chacun, mais qui le fait avec une certaine modestie, pas mal d'humour aussi, et puis avec sa plume. Il était en rien prédestiné à cela, puisque au fond, il a grandi en Algérie, il est né donc avant l'indépendance de la France, en 1962. Il a connu donc l'Algérie sous ses différentes facettes, vous le disiez, il a toujours habité dans son pays, y compris ces dernières années, même quand il est devenu franco-algérien, il faisait de longs séjours. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il en a également été un très haut fonctionnaire. C'est un produit, en quelque sorte, d'une méritocratie algérienne. Et donc, bien qu'étant cela, c'est un scientifique, hein, il a fait l'école polytechnique à Alger. À la base, c'est donc un ingénieur, mais qui avait ce sens des mots, ce sens des lettres, et puis vraiment profondément ancré à lui ce sens de la liberté de penser et qui, pour lui, était indissociable de la liberté de parole. Alors, c'était pas un écrivain grand public, hein, il faut bien dire, en réalité, de manière assez cynique, il faut bien constater qu'aujourd'hui, Boualem Sansal est davantage connu du fait de cette arrestation arbitraire qui aura donc duré quasiment un an, puisqu'il a été gracié et donc libéré avant le premier anniversaire, si l'on peut dire, de sa captivité. C'est cela qu'il a fait connaître de la plupart des gens, sinon c'est vrai qu'il était bien sûr dans les milieux intellectuels, dans les milieux littéraires aussi, vous avez cité la grande maison Gallimard. En Allemagne, il avait des lecteurs, d'ailleurs l'un de ses livres peut-être les plus émouvant ou étonnant, remuant, c'était Le village de l'Allemand. Mais sinon, ses œuvres, elles étaient souvent d'un niveau philosophique ou d'essai politique assez poussé et pas grand public.
Le 30 juillet 2024, la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental au grand dam de l'Algérie. En tournée littéraire en France, Boualem Sansal, qui a désormais la double nationalité française et algérienne, accorde une interview aux médias d'extrême droite frontière où il soutient que l'Algérie a hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Il rentre en Algérie le 16 novembre, il est arrêté à l'aéroport. Boualem Sansal sera condamné à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Henri Vernet, peut-on rappeler le contexte politique de son arrestation ?
Contexte, il est déjà extrêmement tendu. Vous l'avez rappelé, il y a cette affaire de la reconnaissance par Emmanuel Macron au cœur de l'été de la marocanité du Sahara occidental. Et ça, cela a immédiatement provoqué une grande colère du régime algérien. Au point d'ailleurs que dans la foulée, Alger rappelle son ambassadeur à Paris. Donc la crise elle est déjà là, seulement elle est un petit peu sourde, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas encore les unes des journaux, il n'y a pas encore de coup d'éclat, mis à part ce raidissement politico-diplomatique, mais c'est dans ce contexte-là que ça survient. Et en plus, le contexte, évidemment, il est envenimé par le thème. C'est vrai que Boualem Sansal, dans cette interview, il a en quelque sorte remis un petit peu en question l'algéranité, pourrait-on dire, de certains territoires frontaliers du Maroc, et qui, anciennement, du temps de la colonisation, pouvaient être revendiqués par le Maroc. Et ça, évidemment, il le fit au pire moment, et sur un thème dont on sait à quel point il est sensible pour le régime algérien. Tous les prétextes sont là. Il est inculpé immédiatement d'atteinte à l'intégrité nationale, territoriale, à cause de ses propos. Et sans le contexte, il est probable que ça n'aurait pas eu de telles conséquences, un tel retentissement. Il faut d'ailleurs noter que la fameuse interview à laquelle vous faites référence, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle avait été publiée par ce média en ligne. Et elle n'avait pas été spécialement remarquée, y compris d'ailleurs en France, guerre de monde y avait fait attention, mais il semblerait que le président Tebboune lui-même, en revanche, l'avait lu, avait regardé cela de près.
Et le fait que l'interview ait été accordée à un média classé à l'extrême droite, ça a joué aussi contre lui ?
Oui, certainement. Parce que d'ailleurs, il faut bien dire que ce sont les critiques qui étaient régulièrement opposées à Boualem Sansal, lui qui se revendiquait, on l'a vu tout à l'heure, justement à l'écart de tout système de pensée, à l'égard de tout sectarisme, à l'égard de tout parti. Il faut bien noter que ces dernières années, en France, il avait été un petit peu, en tout cas fait l'objet de tentatives de récupération de la part de l'extrême droite, et d'ailleurs de la droite dure, tout court. Et ce média frontière, lui qui justement avait refusé très souvent d'animer, vous savez, ne serait-ce que des conventions pour des partis, parce que justement il tenait à sa neutralité. Assez curieusement, on a découvert à ce moment-là qu'il était, mais tout cela est à vérifier, on le saura désormais puisqu'il est libre, qu'il avait intégré le comité de rédaction, le comité scientifique de ce média, oui, qui est clairement un média d'extrême droite, frontière, qui se revendique d'ailleurs non pas d'extrême droite, mais en tout cas de droite nationaliste dure. Évidemment, ça a heurté d'autant plus la susceptibilité à Alger.
Alors très rapidement, Henri Vernet, à l'initiative d'Arnaud Benedetti, qu'on connaît bien à Radio Orient, un comité de soutien a été créé avec de très nombreuses personnalités, de droite comme de gauche, l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, l'ancienne membre du Conseil constitutionnel Noël Lenoir, des mairies ont exposé son portrait, des amis académiciens ont tenté en vain de le faire élire à l'Académie française pour le protéger, d'autres l'ont proposé pour le Nobel de littérature. Boualem Sansal est devenu un symbole en France, le symbole d'un homme emprisonné pour ses idées.
Oui, mais d'abord parce que c'est le cas, parce qu'objectivement, l'accusation, elle est fallacieuse. C'est le propos comme cela d'un essayiste, de quelqu'un dont forcément la parole est censée être libre. Alors bien évidemment, elle l'est moins de l'autre côté de la Méditerranée qu'en France. Mais c'est vrai qu'il y a le côté là d'un homme qui est embastillé, disons le mot, parce que c'est ça la réalité. Il est embastillé par un régime parce que sa parole, sa pensée, sa plume déplaît. Et donc, il devient ce symbole. Alors c'est vrai aussi que, on l'a vu, tout cela survient dans un contexte politique et géopolitique spécial, très tendu, où alors qu'avec l'Algérie, il y avait tout un travail de rapprochement, notamment de réconciliation mémorielle qui avait été menée par Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée en 2017. Ça avait procédé par étapes, alors avec des avancées, mais également avec des reculs, parce qu'avant même Sansal, il y avait déjà eu des crises assez sévères qui avaient émaillé les années qui avaient précédé son arrestation. Mais bon, il y avait quand même cette toile de fond d'un rapprochement qui, évidemment, a volé en éclats donc, en juillet 2024 avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine, en tout cas, disons, de la pertinence du plan d'autonomie développé par le roi du Maroc sur ce territoire qui reste un territoire disputé, revendiqué par le Front Polisario indépendantiste, lequel est totalement soutenu, porté à bout de bras, même pourrait-on dire, par l'Algérie. Mais bref, jusque avant, il y avait quand même plutôt une espèce de rapprochement, de tentative de meilleure compréhension mutuelle entre Paris et Alger. Il y avait même eu une visite assez retentissante et spectaculaire, disons, d'Emmanuel Macron en août 2022 à Alger, qui avait d'ailleurs été suivie par un conseil des ministres conjoint franco-algérien, toujours dans la capitale algérienne. Bref, le climat, malgré des à-coups, malgré des écueils, paraissait quand même plutôt propice à « aller, on va enfin régler ce passé qui ne passe pas ». Eh bien non, donc l'affaire du Sahara, l'arrestation de Boualem Sansal, tout ça fait que le climat plonge au contraire dans une crise qui est sans doute la plus presque violente en intensité depuis 1962, l'indépendance, et donc Boualem Sansal se retrouve l'otage de ça, et c'est en cela qu'il devient cette icône dont vous parlez, parce que c'est l'icône de la voix qu'on veut faire taire. On sait bien que le régime algérien n'aime pas les têtes qui dépassent, n'aime pas les voix qui portent trop haut, et donc le voilà embastillé, en plus, dans des conditions quand même dures, parce qu'il est âgé, 81 ans, il est malade, on sait qu'il est soigné pour un cancer de la prostate. Donc tout cela en fait, oui, un captif sur lequel on a les yeux braqués.
Henri Vernet, c'est finalement grâce à l'intervention du président allemand Frank-Walter Steinmeier que Boualem Sansal a retrouvé la liberté. Emmanuel Macron a attribué cette libération aux efforts constants de la France. Il a qualifié le président allemand qui a obtenu cette grâce de tiers de confiance. Pourquoi cette médiation allemande? Comment et pourquoi a-t-il convaincu le président Tebboune de gracier Boualem Sansal?
Alors, il y a plusieurs raisons. La médiation, enfin l'intervention d'un pays tiers de confiance, comme a dit l'Élysée en effet, elle est due au fait que tout simplement la relation était devenue tellement toxique, tellement tendue, tellement irrespirable entre Paris et Alger qu'entre les deux, plus rien ne pouvait se régler différemment parce qu'on peut passer très rapidement sur tous les épisodes qu'il y a eu depuis l'arrestation de Boualem Sansal. Il y a eu l'affaire des diplomates expulsés de Paris et d'autres. Il y a eu presque des noms d'oiseaux échangés entre les présidences françaises et algériennes. On se souvient que Macron, à un moment, a parlé de déshonneur, ce qui, évidemment, est un terme qui est inacceptable pour Alger. Le président Tebboune lui-même a parlé de Sansal comme d'un imposteur. Il y a eu, vous savez, les épisodes des OQTF, c'est-à-dire des personnes, des ressortissants qui sont sous obligation de quitter le territoire, donc qui avaient été expulsés par Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, et puis qui n'avaient pas été accueillis par Alger, et donc aussitôt remis dans l'avion pour Paris, ce qui avait donné lieu à ce qui avait été qualifié d'humiliation de la France. Bref, tout le contexte était devenu mais totalement incendiaire, toxique, débouchant sur un gel total des relations diplomatiques, de la coopération économique, migratoire, bien évidemment, mais même sur un sujet aussi sensible que le renseignement et le sécuritaire, même là, il y avait un vrai gel.
Et donc, il a fallu l'intervention d'un pays tiers.
Oui, et ce pays, ça a été l'Allemagne. Alors, les Français avaient pensé à l'Allemagne et à l'Italie, qui tous les deux ont des bons rapports avec l'Algérie. Alors, il se trouve que le président allemand, vous l'avez cité, Frank-Walter Steinmeier, il a une bonne relation depuis plusieurs années avec Abdelmadjid Tebboune, tout simplement déjà parce que Tebboune avait été gravement atteint du Covid-19. Et donc, s'était fait soigner en 2019 et en 2020 dans des hôpitaux allemands, qu'il avait été tout à fait satisfait de ses services là et avait noué dès lors une bonne relation. Il y a également une chose à remarquer, ce sont les termes qu'a employé le président allemand dans sa requête, dans sa demande de grâce. Il a bien fait appel à un geste humanitaire qui soulignerait la clairvoyance politique du président Tebboune. Il y a mis vraiment les formes. Et quand on pense, à contrario, aux termes qui ont pu être utilisés par Macron, je parlais tout à l'heure du déshonneur, mais avant, il a souvent eu des mots qui ont fâché Alger, le président français, par exemple, il avait parlé de la rente mémoriale, enfin bref, des petites formules comme ça fâchent tout de suite entre les deux capitales, tandis que là, le président allemand, il y a vraiment mis les formes, il a su toucher la corde sensible, et puis il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, et là aussi, ce sont les rapports, la réelle politique, comme on dit, c'est que cette crise avec la France, qui a donc duré plus d'un an, et encore faut-il qu'elle s'arrête désormais, mais qui est réelle et profonde, eh bien pendant ce temps, l'Algérie a trouvé d'autres partenaires, d'autres alliés. Elle a vraiment resserré ses liens avec l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, Berlin, c'est en quelque sorte l'avocat de l'Algérie, vous savez, pour rendre le traité d'association entre l'Algérie et l'Union européenne plus favorable. Berlin milite pour ça. L'Italie, Madame Meloni, c'est vraiment devenue la grande amie du régime. Aujourd'hui, l'Italie, c'est le premier partenaire économique de l'Algérie. Donc, l'Algérie, elle a perdu la France, par son choix d'ailleurs, mais elle a trouvé de nouveaux amis. Donc il y a aussi cet aspect-là.
Alors, c'était difficile aussi pour le président Tebboune de le remettre directement aux autorités françaises parce qu'accepter de le laisser partir en Allemagne, c'était un moyen aussi pour le régime algérien de sauver la face ?
Oui, de sauver la face et même, on peut dire, de sortir par le haut. Parce que quand même, à Alger, on était quand même sensible. Toute cette campagne de mobilisation, vous l'avez évoqué d'ailleurs, non seulement en France, mais également en Europe, en Allemagne notamment, également aux Nations Unies. Hein, il y a eu un avis qui a été émis en faveur de Sansal. Donc tout cela, ça commençait à faire quand même beaucoup de bruit, beaucoup de pression sur le régime. Donc l'idée d'atteindre comme ça les un an de détention, ça devenait, le prix devenait un peu cher à payer. Donc là, cette sortie, bah oui, c'est une sortie par le haut, c'est l'Allemagne. Donc il n'y a aucune idée de, j'allais dire, de capitulation face à l'ancien colonisateur, à la France. Hein. Et parce que là, ce serait contraire à tout le discours de l'Algérie, qui au contraire a affirmé pendant tout ce temps à quel point bon, finalement, elle pouvait se passer de Paris, même si ça peut lui faire mal. Eh bien, mieux vaut endurer cela que céder à, même si c'est un petit peu faux dans les termes, mais néanmoins de céder aux pressions des Français. Donc l'Allemagne, bah oui, c'était la bonne voie pour avoir ce sas. Maintenant, justement, tout le savoir-faire diplomatique consistera à faire que le transfert, en quelque sorte, le retour de Boualem Sansal avec sa femme d'Allemagne en France ne se soit pas fait immédiatement, quoi, dans les jours qui ont suivi, pour préserver les formes, l'habillage diplomatique.
Alors, le pouvoir algérien a fait comprendre pendant des mois qu'il n'était pas question de négocier avec Paris un pistolet sur la tempe, une expression largement reprise par la presse algérienne. Est-ce que la fermeté affichée par Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, vis-à-vis de l'Algérie, a ajouté de la tension à la crise ? Certains commentateurs sont allés jusqu'à dire que Boualem Sansal aurait pu être libéré plus tôt, sans les coups de menton du président des LR.
Bon, avec des si, c'est toujours un petit peu facile de refaire l'histoire. Ce qui est certain, ce qui est incontestable, c'est que le cactus Retailleau a beaucoup joué dans cette crise franco-algérienne. Ça, c'est très clair, c'est très net. Mais tout simplement parce que Retailleau a choisi de jouer la force, de jouer la fermeté, de jouer le bras de fer. Et d'ailleurs, il y avait des dissensions à ce propos au sein de l'exécutif français, puisque c'était la ligne de Retailleau, qui n'était d'ailleurs pas sans arrière-pensée de politique intérieure, hein, de politique politicienne, pourrait-on dire. Parce que Retailleau, rappelez-vous, tout cela, ça a été l'année de sa grande ascension. C'est-à-dire, lui qui était finalement assez méconnu du grand public, à la faveur de son passage au ministère de l'Intérieur, et notamment de cette fermeté, il a presque fait de sa lutte contre l'immigration, le renvoi des OQTF, tous ces aspects-là, le côté sécuritaire, il en a fait son emblème pour affirmer sa position dans son électorat de droite, dans l'électorat Les Républicains qui est son parti. Et c'est évidemment pas un hasard s'il a pris la tête du parti Les Républicains pendant cette période. Donc c'est certain que ça a ajouté à la tension. D'ailleurs, son successeur Laurent Nunez, en arrivant, a justement dit que bah non, la politique du bras de fer, ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'il y a eu, pendant cette période-là, il y a eu des vraies tensions entre, d'une part, la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, et Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay, une bonne partie aussi de l'Élysée, qui n'était pas du tout sur cette ligne-là, qui considérait que bah non, il fallait arrêter de braquer l'Algérie si on voulait avoir des résultats. Et puis juste un petit mot, bah, il faut quand même reconnaître que qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là en réalité ? Bah, les OQTF, ils n'ont pas été expulsés parce que l'Algérie a totalement cessé de les accueillir. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun résultat positif pour Bruno Retailleau. Les visas, bah, finalement, c'est un petit peu la ligne du Quai d'Orsay qui l'a emporté puisqu'on a constaté cette année qu'il y avait plutôt au contraire une augmentation des visas accordés, du nombre de visas accordés aux étudiants algériens. Et sans ça, et bah, il a été libéré après le départ de Retailleau et pas avant. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il y a tout ce qu'on a évoqué auparavant.
Alors, le prix Goncourt algérien, Kamel Daoud, qui est lui aussi en délicatesse avec le pouvoir à Alger, a soutenu publiquement Boualem Sansal, mais son incarcération n'a pas ému en Algérie comme en France. Comment l'expliquez-vous ?
Mais je crois que la meilleure explication, elle vient de Boualem Sansal lui-même. Et il se trouve qu'il y a quelques années, il évoquait un peu ces questions, parce que, encore une fois, il a habité pendant très longtemps en Algérie, hein, dans sa maison à Boumerdès, à une quarantaine de kilomètres d'Alger, une ville universitaire, ce qui lui correspondait très bien d'ailleurs. Et c'est que tout récemment qu'il a pris la double nationalité. Et il racontait un jour que le facteur était venu chez lui, comme il lui apportait régulièrement des livres, il lui a demandé, mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec tous ces livres ? Et là, Sansal lui dit, bah, je suis écrivain. Et le facteur lui répond alors, ah, bah, c'est très bien, vous pouvez faire l'écrivain public, vous allez pouvoir aller sur la place et recueillir toutes les doléances administratives de vos concitoyens. Et tout ça, c'était pour dire quoi tout cela? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer, Boualem Sansal, à quel point, bah, finalement, le statut d'écrivain, c'est pas du tout le même en Algérie qu'en France, où en France, dès que vous avez publié un bouquin, ça y est, vous pouvez prévaloir de ça, et vous avez, oui, une espèce d'aura autour de vous. Non, c'est pas vu comme ça en Algérie. D'ailleurs, pour aller plus loin, Boualem Sansal expliquait même le fait, jusque-là, de ne jamais avoir été inquiété réellement par les autorités algériennes. Il l'expliquait justement par cela, par le fait que, bah, écrivain là-bas, il avait beau critiquer, oui, le régime, les islamistes, bah, finalement, il vivait sa vie à peu près tranquillement jusqu'à ce funeste jour de novembre 2024.
Alors, on l'a dit, Henri Vernet, cette affaire a eu de fortes implications sur le plan intérieur en France. En mai dernier, les Insoumis ont refusé de voter en faveur de la résolution réclamant la libération de Boualem Sansal à l'Assemblée nationale. Ils considéraient que le texte attisait les tensions entre la France et l'Algérie. Éric Coquerel a même exprimé l'idée que cette résolution était un moyen d'instrumentaliser Boualem Sansal et de régler des comptes avec l'Algérie. Alors depuis, l'ensemble de la classe politique, y compris LFI, s'est réjoui de la libération de Boualem Sansal. Mais pourquoi une partie de la classe politique n'a-t-elle pas soutenu Boualem Sansal, qui a été soutenu notamment par la droite, par Renaissance, par l'extrême droite?
Justement pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Boualem Sansal était devenu l'emblème, malgré tout, malgré lui, hein, on pourrait dire, de la droite, disons, d'une frange assez dure sur toutes ces questions-là. Or, LFI, l'extrême-gauche, ben, c'est le contraire. Justement, ils ont plutôt tendance à jouer d'un électorat qu'ils estiment beaucoup plus sensible. Ben, on voit bien, par exemple, leur position sur Gaza, leur circonvolution et circonlocution à propos du Hamas. Enfin, tout cela fait partie du même jeu politique. Je voudrais quand même juste revenir en une seconde sur ce que vous disiez sur cette résolution. Moi, je trouve qu'on parlait de déshonneur tout à l'heure, hein, le mot qu'avait employé Macron vis-à-vis d'Alger à propos de l'arrestation arbitraire de Sansal. Mais ce mot, on pourrait aussi l'appliquer, je trouve, à ces politiques qui, pour des raisons vraiment politiciennes, ont fait un tel partage et ont refusé. C'est-à-dire que cette attitude LFI aujourd'hui a beau se réjouir, je trouve néanmoins qu'avoir refusé de soutenir cette libération immédiate, bah, c'est franchement pas à leur honneur, quoi. On ne transige pas avec la liberté d'expression, avec la liberté de penser, avec la liberté des artistes, des écrivains, et la manière, eux, dont ils ont fait ce petit, ouais, on peut le dire, ces petites manœuvres pour je ne sais quel gain électoraliste pour plus tard, pour les différentes élections, eh ben, c'est franchement pas glorieux.
Henri Vernet, le journaliste français Christophe Glaise reste détenu en Algérie. Son affaire est différente de celle de Boualem Sansal, mais cela reste un objet de tension entre les deux capitales.
Alors de tension, justement, il faudrait espérer que non. Il faut vraiment saisir cette opportunité, parce que bon, certes, le message adressé par Alger en rendant Boualem Sansal à l'Allemagne, non pas à la France, il est clair, hein, c'est une façon de dire aussi, voilà, il est libre, néanmoins, notre contentieux n'est pas totalement réglé. S'il n'est pas réglé, il est quand même en voie de reprise de dialogue. Donc il faut espérer que ce dialogue, ce sont d'ailleurs les mots de l'Élysée, soit plutôt constructif, calme, apaisé, tout en restant exigeant de part et d'autre, donc qu'il soit justement dépourvu de tensions. Et c'est vrai que, évidemment, parmi les objectifs, il faudrait obtenir la libération de Christophe Glaise, lui aussi, dont on peut discuter à loisir, hein, de la pertinence vraiment de l'accusation et de la condamnation qui le mène en prison. C'est un jeune journaliste sportif, il avait vraiment un récit autour d'un club, d'une équipe de foot et d'un club au-delà de l'équipe à raconter. Donc là encore, on touche à des domaines qui sont extrêmement subjectifs. Donc oui, Christophe Glaise, c'est important pour Paris d'obtenir sa libération.
Dernière question, Henri Vernet. Le RN a fait adopter une proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Il est fort à parier que les candidats à l'élection présidentielle soit contraint de se positionner sur l'Algérie.
Mais c'est déjà le cas. Regardez Édouard Philippe, hein, qui est bon, le camp Macron, l'ancien premier ministre de Macron, même si aujourd'hui il est en rupture totale avec son président. Il l'a déjà fait. Ça fait un bout de temps qu'il demande justement, pas l'abolition, pas la dénonciation totale, mais une révision totale, un refondement complet de cet accord. Un autre bébé Macron, j'allais dire, Gabriel Attal, lui aussi a émis cette hypothèse-là. Beaucoup beaucoup. En fait, ça fait longtemps que cet accord, il est dans le débat. Simplement, comme c'était moins urgent, ça faisait pas là non plus la une des médias. Mais c'est vrai que c'est devenu un objet politique totalement inflammable du fait de ce contexte, du fait de ce bras de fer spectaculaire entre Paris et Alger, dont encore une fois, il faut espérer qu'on tourne vraiment cette page-là. La résolution dont vous parlez, bon, elle n'est bien sûr pas contraignante, hein. À titre de comparaison, je vous rappellerai par exemple qu'en 2014, l'Assemblée nationale avait voté une résolution pour la reconnaissance de l'État palestinien, laquelle n'était intervenue que, si mes calculs sont bons, 9 ans plus tard. Donc, il n'y a pas d'obligation. Une résolution, c'est une résolution. Néanmoins, c'est quand même un signal qui est fort. Il faut en tenir compte. Alors, elle émane du RN. On a bien vu que tout ce dossier franco-algérien, il est devenu un objet politique de premier ordre. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut dépassionner. Après, justement, quand on dépassionne, il est clair que un traité, alors qui a été révisé, il faut pas oublier ça, c'est jamais rappelé, mais il a été révisé sauf erreur à 2 reprises. Mais enfin, il date quand même de 1968, c'est-à-dire dans la foulée de l'indépendance, de la décolonisation. Aujourd'hui, évidemment, le contexte a changé. Donc il y aurait vraiment rien que de très normal à en revoir les termes. Simplement, d'un côté, on vous parle de dénonciation, ça veut dire que c'est unilatéral, et ça, avec raison. Aujourd'hui, l'exécutif, c'est-à-dire tant l'Élysée que Matignon, que évidemment le Quai d'Orsay, s'y refuse totalement. Mais une renégociation, une révision, ça oui, simplement pour renégocier, il faut être 2. C'est comme pour danser le tango. Et donc, ça ne pourra se faire qu'avec les Algériens. On peut penser qu'ils ne vont pas être très pressés de rentrer à la négociation. Ça reste évidemment une arme dans leur besace. Mais enfin, ce serait quand même bien que les choses avancent, et justement de cette façon qui a été décrite comme plus sereine et plus dépassionnée.
Merci, c'était Coulisses politiques avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien Aujourd'hui en France, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.